السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجيني إلى يوم القيامة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من حكمة الله جل وعلا تفضيل بعض الأيام على بعض، وتفضيل بعض الشهور على بعض، وبعض الأماكن على بعض، حكمة من الله تبارك وتعالى، وذاك لتوفير أسباب نيل البركات والخيرات، وسبحان الحكيم العليم. أيها المسلم، نحن في أيام مباركة وأيام فاضلة، أيام عشر ذي الحجة، تلكم الأيام التي أقسم الله بها في كتابه العزيز، قال عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. هذه الأيام العمل الصالح فيها له فضل عن سائر الأيام. هذه الأيام مشتملة على مهمات الإسلام، ففي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. فتأمل أخي الحبيب قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. فدل هذا الحديث على أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام لها مزيد فضل وكرم وجود. الأعمال الصالحة تشمل كل عمل صالح يحبه الله من صلاة، تلاوة قرآن، صدقة، بذل المعروف، صيام، ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام. ولذا قال الله تبارك وتعالى: ويذكرون اسم الله عليه، ويذكرون اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيها المسلم، اعلم أن اليوم يوم عرفة، وغدا سيكون يوم العيد بإذن الله، وأنه يسن لنا للمسلمين في يوم العيد أن نضحي، أن نضحي لله تبارك وتعالى. اعلم أن الأضاحي سنة إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، عبادة قديمة تعبد الله بها الأمم. قال عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي لكل أمة من الأمم جعلنا منسكا، شريعة في الذبح. إذن فالأضحية عبادة لله وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله، وقد دلت نصوص القرآن والسنة على مشروعيتها وسنيتها. قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. أيها المسلم، إنها إراقة الدم طاعة وتقربا إلى الله عز وجل. نبيكم عليه الصلاة والسلام رفع شأن هذه الأضحية وعظمها، لأن تعظيمها من تعظيم الله ومن إقامة شعائر الله تبارك وتعالى. وأخبر جابر بن عبد الله بذلك، أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان ينحر ويذبح بالمصلى، لأنه يريد إعلان هذه السنة وإظهارها والرفع من شأنها. ولذا قال علماء المسلمين، وانتبهوا إلى ذلك، إن الأضحية سنة، لأن بعض الناس يظنون أنها واجبة فرض وأن تاركها يأثم، والأمر ليس كذلك، فهي سنة عند الجمهور، سنة مؤكدة. ولا أعني بذلك أنك لا تهتم بهذه السنة أبدا، ولكن إن فاتتك هذه السنة فاعلم أنك غير آثم. فقط إن الأضحية سنة، وإن ذبحها أفضل من التصدق بقيمتها، وهذا سنرجع إليه إن شاء الله. قالوا، أي العلماء، لأنه حافظ عليها ولازمها ولم يدعها أبدا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، لا تدع هذه السنة، هي شاة واحدة عنك وعن أهل بيتك، ولا يخدعنك من يهون من شأنها ويقلل من قدرها، أو يقول: اللحم كثير، اللحم كثير ولا حاجة للأضاحي، أو يقول: ألقوا قيمتها في مواضع أخر، إلى آخر ذلك. هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعمل أمة الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يستخف بشأنها ولا أن يقلل من قدرها، ولا أن يظن أن إنفاقها لقيمتها قائم مقام هذه السنة وهذه الشعيرة العظيمة. أيها المسلم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أحكام الأضاحي، كما كان أيضا مبينا في كتاب الله العزيز. فالجنس الذي منه الأضاحي هي بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. وقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السن المجزئ في ذلك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. فدل على أنه لا بد أن يكون مسنا، وهي في الإبل ما تم له 5 سنين، في الإبل ما تم له 5 سنين، هذا أقل شيء، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي الضأن ما تم له 6 أشهر، وفي المعز ما تم له 1 سنة. ولا بد أن تكون هذه الأضحية خالية من العيوب المانعة للإجزاء. وقد بيّن أصول هذه العيوب صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تلقى. رواه ابن ماجه والحديث صحيح. فبين لهم أن العوراء التي استبين عورها إن خسفت عينها أو نتأت فإنها لا تجزئ. أيها المسلم اعلم أن هذه العيوب في الأضاحي لو كانت حاصلة بعد شرائك لها من غير أن يكون تفريط منك أو إهمال فلا شيء عليك. أي أنت اشتريت هذه الأضحية واشتريتها سليمة، وبعد مدة من يعني بعد مدة أصبحت مريضة، فلا شيء عليك، لا شيء عليك. المشكلة هي أنك هي في شرائك لأضحية مريضة أو عرجاء أو عوراء كما بينا في الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل أنه اشترى أضحية فعدت للذبح، فعد الذئب فأكل أليتها قال عليه الصلاة والسلام ضحي بها ضحي بها. والحديث أخرجه الإمام أحمد. قال العلماء العيوب إذا طرأت في الأضاحي من غير إهمال ولا تضيع فإنها تجزئ، وأما إن أهمل وفرط فإنه يضمن ذلك لأنها أمانة عنده. وبين لنا عليه الصلاة والسلام آداب الذبح وأرشدنا إلى الطريق المستقيم. فأولا لا بد من تسمية الله، فاسم الله تبارك وتعالى الشرط لحل الذبيحة، هذا الأمر الأول، لأن الله تبارك وتعالى قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه سورة الأنعام، وقال عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه سورة الأنعام أيضا. وعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. متفق عليه. والسنة للمسلم القادر المحسن أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى ذلك بيده مع وجود من هو أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم، لكنها عبادة وكل عبادة يتولاها المسلم بنفسه فذاك أكمل وأفضل، وإن لم يفعل فليحضر ذبحها، هذا أقل القليل. وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفق بالحيوان، فسن لنا حد الشفار، شفار السكين، وأن تكون آلة حادة لكي تجزئ الذبيحة من غير إضرار بها. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. خرجه مسلم. كما أرشدنا عليه الصلاة والسلام أن لا نذبح بآلة كالة، وأن لا نحد السكين في وجه البهيمة لأن هذا الأمر يخوف الحيوان، وأن لا نذبح أخرى وأخرى تنظر، وأوجب علينا إراقة الدم بقطع الحلقوم والمريء، ونتمم ذلك بقطع الأوداج ليكون في ذلك راحة للذبيحة وإحسان إليها. عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أرحم الشاة أن أذبحها، فقال إن رحمتها رحمك الله أخرجه الحاكم. فصلوات الله وسلامه عليه. السنة للمسلمين أن يأكلوا من أضاحيهم ويهدوا ويطعموا، وإن أرادوا أن يهدوا يعني الأضحية بكاملها فلا شيء عليهم، فقد فعل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن المولى عز وجل قال في كتابه وكلوا منها، فالسنة أن تأكل منها وأن تهدي ثلث 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 كما هو معلوم، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع سنة المصطفى والعمل بها والثبات على الحق، إنه على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، mes frères et sœurs, Allah تبارك وتعالى par sa sagesse a favorisé certains jours sur d'autres, certains mois sur d'autres, et certains endroits sur d'autres. Et cela pour multiplier les occasions d'obtenir ces bénédictions et ces bienfaits. Gloire à Allah, le sage, le savant. Chers musulmans, chères musulmanes, nous sommes dans des jours bénis, des jours qui ont du mérite auprès d'Allah tabaraka ta'ala. Il s'agit des 10 jours de Dhul Hijjah. Malheureusement, un grand nombre de musulmans ne connaissent pas les 10 jours de Dhul Hijjah. C'est les 10 premiers jours du mois Dhul Hijjah, le mois du calendrier lunaire Dhul Hijjah. Allah Azza wa Jal a juré par ces 10 jours dans le noble Coran. Dans Sourate Al-Fajr, Allah Azza wa Jal a dit par l'aube et par les 10 nuits. Et Ibn Kathir rahimahullah a dit cela fait référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par ces 10 jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de jurer. Mais quand Allah Azza wa Jal jure, c'est pour montrer la valeur d'une chose. Donc les 10 jours dans lesquels nous vivons, et nous sommes dans le 9e jour de Dhul Hijjah, donc il y a déjà 9 jours qui sont passés, ils ont de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous est recommandé de faire beaucoup de bonnes actions. Pendant ces 10 jours, les bonnes actions ont un mérite particulier. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, il n'y a pas de jour où les bonnes actions ici, vous avez compris ce que ça veut dire, la prière, l'aumône, hein, le jeûne surrogatoire, la bienfaisance envers les parents, la lecture du Coran, etc. Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces jours. Allahu Akbar. Que ces jours-là, les 10 jours de Dhul Hijjah. Et le hadith ici, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Mon frère, ma sœur, médite un peu sur ce hadith. Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont les plus aimées d'Allah que ces jours. C'est une période, une durée de temps qui est limitée et qui a énormément de valeur auprès d'Allah. Mon frère, ma sœur, ce passage nous prouve que les 10 jours de Dhul Hijjah ont un grand mérite. Et concernant les bonnes actions, il s'agit de toutes les œuvres qu'Allah aime, comme la prière obligatoire en son heure, et aussi les surrogatoires, comme la lecture du Coran, comme l'aumône, comme le jeûne, le fait d'ordonner le bien, et bien sûr ne pas oublier dhikr, l'évocation d'Allah tabaraka ta'ala. Il est donc légiféré pour le musulman pendant ces 10 jours de multiplier le dhikr. L'imam al-Bukhari rahimahullah a dit, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, ce grand compagnon, ce grand alim, ce zahid, cet ascète, cet homme qui était connu pour son attachement pour la sunna, radiyallahu anhu an jami' al-sahaba, Abdullah ibn Umar, lui et Abu Huraira, allaient au marché pendant les 10 jours de Dhul Hijjah et ils répétaient Allahu Akbar. Ils évoquaient Allah. Allahu Akbar. Vous imaginez un petit peu, est-ce que tu as évoqué Allah durant ces 10 jours? Est-ce que tu as dit Allahu Akbar, la ilaha illallah? Est-ce que tu as fait du tasbih, tu as dit Subhanallah? Est-ce que ces 10 jours sont passés comme ça? Ou tu étais dans l'ibadah ou plutôt dans l'insouciance? Mon frère, ma sœur, en ces jours bénis, les principales adorations se sont réunies, à savoir la prière obligatoire, le jeûne, et ici on parle du jeûne surrogatoire, le pèlerinage, le hajj et l'aumône. Toutes les adorations se sont réunies. Ces 10 jours ont énormément de valeur. Ils contiennent des jours très importants tels que le jour de Arafah, c'est aujourd'hui, le jour de Arafah, le 9e jour de Dhul Hijjah, et le jour du sacrifice qui sera demain, bi'idhnillahi azza wa jal. Le jour de Arafah est l'un des meilleurs jours auprès d'Allah, selon Abdullah ibn Amr. Radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la meilleure invocation est celle faite le jour de Arafah. Et la meilleure parole que j'ai prononcée moi et les prophètes qui m'ont précédé est la formule La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La meilleure parole à prononcer aujourd'hui, c'est celle-là. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et le hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi. Il est recommandé aux musulmans qui n'accomplit pas le pèlerinage de jeûner ce jour, le jour de Arafah. D'après Abu Qatada, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a été interrogé à propos du jour de Arafah et il a dit, il expie les péchés de l'année précédente et ceux de l'année suivante rapportés par muslim. Subhanallah, regardez la générosité d'Allah Azzawajal. Tu jeûnes uniquement ce jour et Allah te pardonne un an de péché passé. Et vous savez très bien qu'on en fait des péchés avec nos yeux, avec nos langues, et un an futur. Et pour cette année, pour clôturer rapidement ce débat, tu pouvais jeûner sans aucun problème le vendredi seul. Car la karaha an-nahi, quand le prophète alayhi salatu wasalam a interdit de jeûner le vendredi, il a interdit de le spécifier. C'est tarsis an-niyya bi-siyam yawm al-jum'a. Amma alladhi yasum yawm arafa mithla hadhihi ay mithla fi hadhihi as-sana fala shay'a alayhi li'annahu lam yukhassis صيام الجمعه ولكن صام هذا اليوم لانه يوم عرفه. Si tu jeûnes aujourd'hui, t'as pas jeûné parce que c'est le vendredi, t'as jeûné parce que c'était Arafah. T'as pas besoin de jeûner le jeudi. Si tu le fais, c'est bien, t'as fait un jour surrogatoire. Mais malheureusement, une polémique a tourné sur les SMS et tout le monde disait c'est obligatoire, si tu le fais pas, et dans le pire des cas, c'est juste makrouh, c'est juste déconseillé, t'as pas de péché. Ça, c'était dans le cas où même tu l'aurais fait sans savoir, yani, que c'était autorisé. Et c'est autorisé, il n'y a pas d'ishkal, il n'y a aucun problème. T'as le droit de jeûner ce vendredi-là parce que c'est Arafa. Ou si ça tombe à Ashura. Ou quelqu'un, par exemple, qui jeûne un jour sur deux, comme le siyam de Daoud alayhi salam, et que ça tombe le vendredi, et il n'a pas jeûné un jour avant, il fait comment? Tant que lui n'a pas jeûné pour le vendredi, seul, il n'est pas concerné par la karaha, le hadith qui parle du déconseillé. Quant au pèlerin, celui qui est au hajj, il ne lui est pas recommandé de jeûner le jour de Arafah. Car pendant ce jour, le pèlerin est en invocation. Il est en dhikr, en évocation. Et le fait de ne pas jeûner lui donnera plus de force dans les adorations. Notre prophète, alayhi salatu wasalam, lui-même ne jeûnait pas le jour de Arafah quand il était au hajj. Écoute avec moi, les gens qui l'entouraient doutaient de son jeûne. Ils ne savaient pas, est-ce qu'il jeûnait le jour de Arafah ou pas quand il était au hajj. Ils ne savaient pas si le prophète, alayhi salatu wasalam, jeûnait ou pas. Et c'est là que son épouse, Maïmouna, radiallahu anha, lui apporta un récipient de lait. Puis il en but devant les gens. Il en a bu devant les gens et c'est rapporté par le Bukhari pour leur montrer qu'il ne faut pas jeûner ce jour-là quand on est au hajj. Par contre, pour nous, quand on n'est pas au hajj, il est recommandé de jeûner pour avoir la récompense d'une année expiée passée et une future. Mon frère, ma sœur, fais donc des efforts pendant les quelques heures qui nous restent de ces 10 jours de Dhul-Hijjah. Rapproche-toi d'Allah par les paroles et les actions qu'Allah aime et accepte, et multiplie les doigts pendant ces jours bénis. Mes frères et sœurs, sachez que le sacrifice d'une bête a été la sunna du prophète Ibrahim alayhi salatu wasalam, et la sunna de notre prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. Il s'agit d'une adoration qui est ancienne, qu'Allah a légiféré aux communautés qui nous ont précédés. Nous ne sommes pas les premiers à sacrifier des bêtes le jour de l'Eid, ça existe déjà depuis longtemps, depuis le prophète Ibrahim alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-Hajj, à chaque communauté nous avons assigné un rite sacrificiel. À chaque communauté nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribué. Le sacrifice d'une bête est donc une adoration par laquelle le musulman se rapproche de son Seigneur. Le Coran et la Sunna nous prouvent sa législation et qu'elle est une Sunna et non une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dit en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, c'est-à-dire mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Et Allah azzawajal a dit aussi, accomplis la salat, puis sacrifie. Fasalli li rabbika wanhar. Mon frère, ma sœur, il s'agit du sacrifice que l'on fait pour se rapprocher d'Allah. Notre prophète, alayhi salatu wasalam, lui a accordé beaucoup d'importance à cette adoration qui fait partie des injonctions divines. Notre prophète, alayhi salatu wasalam, resta fidèle à cette adoration pendant toute sa période médinoise. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, nous dit que le prophète, alayhi salatu wasalam, resta 10 ans à Médine pendant lesquels il sacrifia chaque année. Le prophète, alayhi salatu wasalam, faisait cette adoration devant les compagnons. Et selon le hadith de Anas, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wasalam, a sacrifié 2 béliers cornus de couleur grisâtre. Il les égorgea lui-même en disant Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Jabir radiallahu anhu rapporte quant à lui la même chose. Il rapporte que le prophète alayhi salatu wasalam sacrifiait dans la Musalla, le lieu de prière. Il faisait cela pour mettre en valeur cette sunna, et c'est pour cela que nos savants ont dit le sacrifice d'une bête est une sunna. Et sachez que sacrifier la bête est meilleur que donner l'aumône de son prix. C'est meilleur. Cela ne veut pas dire que si la personne donne l'aumône de son prix pour des cas particuliers, que ce n'est pas accepté. Il y a des savants qui ont ouvert la porte. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit aux frères, respectez les divergences dans ces cas. Et il en fut de même. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, quant à lui, il n'a pas donné son prix en aumône, mais il a sacrifié une bête. Et il en fut de même pour ses 4 califes. Comprenez donc que pour l'Aïd, il vaut mieux se rapprocher d'Allah par cette adoration que d'en donner le prix pour qu'elle se soit sacrifiée ailleurs. Le sacrifice d'une bête est donc une adoration pour Allah, et c'est pour cela que si une personne sacrifie une bête pour autre qu'Allah, aura commis du shirk, il aura associé à Allah. La majorité des savants voient que le sacrifice d'une bête pour l'Aïd est une sunna et non une obligation. C'est l'avis de l'imam Malik, Shafi'i, l'imam Ahmed et d'autres savants voient que c'est obligatoire comme l'imam Abu Hanifa. Donc la majorité des 4 écoles voient que c'est une sunna. Et là, j'invite mes frères à bien comprendre cette chose. Parce qu'il y en a qui s'angoissent le jour J ou la veille, parce qu'ils n'ont pas les moyens, il n'a pas l'argent, d'accord ? Il est endetté, surendetté, il a perdu son argent ou il n'a pas encore touché son salaire. Et il ne sait pas comment faire pour acheter un mouton ce jour-là. Sache mon frère que si tu ne le fais pas parce que tu n'avais pas les moyens, tu n'as pas de péché. Et dans le cas où tu ne le fais pas et tu avais les moyens, tu n'as pas de péché, parce que c'est une sunna. Et je ne suis pas en train de dire dévaloriser cette sunna, ne lui accordez pas d'importance, hein, parce qu'on a grandi avec. Ça, c'est carrément une culture. de ce qu'on a appris de nos parents. Gardez ça en tête, que c'est important de le faire, mais si vous ne le faites pas, gardez aussi en tête que vous n'avez pas de péché bi'idhnillah. Et ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est une sunna recommandée, et celui qui a les moyens, qu'il ne délaisse pas cette adoration. Mes frères et sœurs, la bête à sacrifier doit être soit un chameau, soit une vache, soit un mouton. Et dans la religion, il nous est indiqué à partir de quel âge la bête peut être sacrifiée, car il y a un âge précis. Si l'âge n'est pas respecté, il faut savoir que ce sacrifice n'est pas accepté. Le minimum requis en la matière consiste pour les ovins en un agneau ou une agnelle de 6 mois au moins. Donc l'agneau, minimum 6 mois. Pour les caprins, chèvres ou boucs, 1 an minimum. Retenez bien. Pour les vaches ou les taureaux, 2 ans minimum. Il faut qu'il ait 2 ans minimum, le taureau ou la vache. Et pour ce qui est du chameau ou de la chamelle, c'est 5 ans minimum. Donc je reprends. 5 ans c'est facile, c'est pour le chameau ou la chamelle. 2 ans c'est pour la vache ou le taureau minimum. D'accord ? Chèvre ou bouc, c'est 1 an minimum. Agneau ou agnelle, 6 mois minimum. Pour la bête qui sera sacrifiée, elle doit être exempte de 4 défauts. Des défauts apparents qui ont été cités dans un hadith, le hadith d'Al-Bara, qui est rapporté par Ibn Majah. Le prophète a dit 4 défauts font que le sacrifice n'est pas accepté. La bête borgne de manière apparente. Elle est borgne de manière apparente. D'accord ? Bien sûr, si elle est aveugle, c'est pareil. La bête visiblement malade, ce n'est pas une petite maladie, c'est une maladie grave. La bête boiteuse de manière évidente, pareil, celle-là tu ne l'achèteras pas pour le sacrifice. Et pour terminer, la bête maigre que l'on ne peut récupérer. Ikhwan al-Kiram, le sacrifice, son temps commence après Salat al-Eid. D'accord ? Faites attention aux bouchers, aux fermes, aux centres commerciaux où vous allez commander un mouton et qui vont peut-être être sacrifiés avant Salat al-Eid. Car ce sacrifice-là ne sera pas accepté. Il faut que ce soit après la salat. Jusqu'à quand ? Jusqu'au 13e jour de Dhul-Hijjah. Vous avez 4 jours jusqu'au Maghreb du 13e jour. C'est pas obligé de le faire le premier jour. Si le premier jour tu n'as pas réussi à sacrifier ta bête, tu peux le faire le 2e jour, le 3e jour ou même le 4e jour avant le Maghreb. D'accord ? Donc il y a, alhamdoulilah, du temps. Le prophète alayhi salatu wasalam, après la salat, la première chose qu'il faisait, c'était le sacrifice. Le sacrifice. La première chose donc à faire, c'est le sacrifice, c'est de dire bismillah. D'accord ? Et si elle n'est pas sacrifiée au nom d'Allah, il faut savoir que la bête n'est pas sacrifiée de manière licite et donc la bête n'est pas à manger. Ensuite, il faut savoir que notre religion nous interdit d'aiguiser une lame devant la bête pour ne pas la faire peur. De même, on n'a pas le droit de sacrifier une bête devant une autre bête pour ne pas lui faire peur. Regardez, subhanallah, la miséricorde de l'islam dans le sacrifice. Donc ça, c'était pour ce qui est des règles de sacrifice. La dernière chose, c'est que l'imam Abu Hanifa Malik et Ahmed disent qu'il est recommandé de répartir le mouton que tu vas égorger au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en 3/3. Un tiers que tu vas manger, un tiers que tu vas donner aux invités, un tiers pour les gens en aumône. Et si tu veux donner tout, tu as le droit de le faire. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu l'a déjà fait, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit mangez-en. Donc il est quand même recommandé d'en manger un petit peu. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cette fête du sacrifice et que cette fête soit une fête de joie, une fête où l'on fait revivre la sunna d'Ibrahim alayhi salatu wasalam et la sunna de notre bien-aimé alayhi salatu wasalam. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يبارك في هذا الجمع اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فيسر له كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاشغله بنفسه آمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استوى اعتدلوا تراصوا يرحمكم الله حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل تراصوا نرجو منكم إغلاق الهواتف والتليفون سوف يبغى بارك الله فيكم. الله أكبر
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله
الحمد لله
أكبر.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
صلاة العيد demain إن شاء الله aura lieu à 8h30. 8h30 إن شاء الله bien sûr vous essayez de venir sans vos véhicules de préférence. Et ça sera dans cet endroit-là, Inch'Allah. À 8h30, Inch'Allah. Barakallahu fikoum.
Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ce soir après le marb, inchallah, il y aura un iftar jama'i, on mangera tous ensemble, vous êtes tous invités inchallah. Barakallahu fikoum. Je suis